Merci. Éric Larcher, donc Ezen, j'ai été présenté ce matin, donc on va gagner du temps. On a parlé d'évaluation comme étant le terme générique qui allait coiffer l'ensemble des propos, des idées, des concepts qui ont été balayés avec effectivement beaucoup de maîtrise. Sauf que si j'ai encore un peu de mémoire de ce que je croisais dans les classes il y a encore quelques années, et d'ailleurs c'est vraiment un clin d'œil, n'y voyez aucune malice, ça a été repris à un moment ou à un autre, on entend parler de contrôle, on entend parler d'épreuves, on entend parler d'exercices, on entend parler de choses comme ça, mais renvoyé à l'évaluation, en ce que étymologiquement ça intègre comme rechercher la valeur d'eux, assez peu. Et donc ce que j'aimerais savoir, c'est quel lien, quel écart, quelle articulation on peut avoir entre ce qui est une préoccupation traduite avec des mots par les professionnels du système éducatif en France, avec les approches conceptuelles telles que vous venez de les présenter.
Alors, ma collègue Martine Raymond me dit que ça sera... elle est davantage d'ailleurs spécialiste que moi, qui suis issu d'une formation plutôt psychologique, et donc qui abordait ça par le biais de la psychométrie. J'ai eu moins l'habitude de la... de l'évaluation au quotidien dans la classe. Donc, si ça vous ennuie pas, je préfère soit Martine répondre tout de suite, soit je préfère lui réserver ça, la réponse à votre question pour laquelle elle est beaucoup plus compétente que moi. Voilà. Ceci dit, juste un mot quand même, je peux vous dire, c'est que dans le rapport sur l'évaluation fin de troisième, il y avait, c'était un rapport à deux voix, il y avait celle de Michel Saline, il est donc inspecteur général, et qui a travaillé, lui, sur le brevet. Et on s'était quand même intéressé à la question, est-ce que les épreuves d'évaluation fin de troisième, les épreuves standardisées, ont-elles, quel est le, par rapport au brevet des collèges, est-ce qu'on mesure la même chose, puisque dans les deux cas, on va certifier en quelque sorte les connaissances de nos élèves, et en gros, bon, il y a eu quelques expériences où l'ADEP a fait passer des épreuves d'évaluation et a regardé les résultats au brevet. Bon, on arrivait à 50% de variance commune. Alors là, je donne la parole à Jules Renard, l'optimiste voit le verre à moitié vide, là où le pessimiste le voit à moitié plein. On peut dire 50% de variance commune, on est la variabilité des correcteurs, des élèves, de la notation par rapport à une épreuve standardisée qui elle-même ne mesure pas aussi. Comme je dis, le danger de l'épreuve standardisée, c'est d'aboutir à une réification, mais là aussi, donc 50%, c'est pas mal. Mais enfin, ça montre bien que, bon, il y a de la variabilité dans l'évaluation, quelles que soient les approches utilisées.
Moi, je voulais quand même en poser une, puisque finalement. Par rapport à ce que tu as dit, est-ce que finalement on peut en conclure qu'il faut jeter Pisa avec l'eau du bain, ou est-ce qu'il y a quand même des éléments intéressants dans ces comparaisons internationales de résultats? Enfin, je veux dire, quelles leçons quand même on peut tirer de ces comparaisons internationales? Est-ce qu'elles peuvent être utiles finalement aux acteurs du système éducatif ou aux décideurs politiques à défaut? Ou est-ce que véritablement, finalement, ces grandes organisations internationales que sont l'OCDE, l'Educational Testing Service, ont finalement travaillé pour rien?
Non, PISA, Martine parlera peut-être plus au quotidien. Moi, mon opinion aujourd'hui là-dessus, bon, c'est qu'une fois qu'on dépassionne un petit peu le débat, parce qu'au début, c'est quand même ce qui s'est passé sur l'enquête IALS. Comme je vous disais, on ne peut pas s'intéresser à la réception en France des résultats de PISA en faisant abstraction de ce qui s'est passé en 1994 sur la réception de l'enquête sur la littératie des adultes, qui, elle, présentait quand même de gros problèmes, puisqu'on avait transposé directement une enquête américaine. Bon, là, c'était autre chose. PISA, c'est quand même une construction commune, même si beaucoup des questions sont majoritairement quand même anglo-saxons, pour des raisons diverses. Ensuite, comme je vous disais, en éducation, c'est difficile de faire des expériences. Donc, le fait de pouvoir se comparer avec d'autres pays est intéressant. Ce qui est intéressant aussi en France, c'est que l'analyse après plus fine, travaux comme ceux qu'a fait Martine sur les protocoles, nous a amené à comprendre un certain nombre de choses. Je ne vais pas déflorer ce qu'elle va vous dire. Mais enfin, il y a, bon, par exemple, le doublement. On a quand même appris des choses intéressantes sur le doublement grâce à PISA. sur, enfin, on les savait peut-être avant, mais ça les a bien mis en évidence, ça a permis de les communiquer. Par contre, je vous dis, le danger de Pisa, enfin, moi, c'est pour ça que je le dis, parce que si il y avait dans la pièce quelqu'un de l'OCDE, hein, je suis souvent intervenu avec des collègues de l'OCDE. Bon, ils présentent Pisa comme étant tellement la panacée universelle, le prototype de ce qu'il faut faire, etc., que, comme je suis un peu frondeur, ça me donne envie d'aller à l'inverse, c'est-à-dire de pointer les défauts plus que les qualités. Hein. Donc il y a des qualités importantes dans Pisa, parce que c'est vrai que c'est un travail difficile de faire des épreuves, plus avec toute l'infrastructure que ça demande, sur 32 pays, demain peut-être 65, avec des différences linguistiques énormes, et d'arriver quand même à quelque chose d'un peu consistant à la sortie. Par contre, hein, je vous dis, ce qui me paraît dangereux, c'est pas Pisa, c'est la réification qui est faite sur Pisa. C'est-à-dire, ce qui me paraît très grave, c'est à la fois, bon, enfin, les médias, c'est pas dramatique, mais enfin, ça donne quand même une coloration. Et ensuite, que le politique considère aujourd'hui que la place de la France dans Pisa pourrait être une mesure de l'efficacité, puisqu'on veut évaluer les ministres de nos ministres, ça, sachant que Pisa, comme je dis, n'est pas le système métrique, c'est un peu ça le danger. Vous voyez, en France, on est tellement habitué au système métrique que quand on nous dit mesure, on voit le pavillon de Breteuil à Sèvres avec, comme la petite boîte que nous avions dans nos classes avant, hein, avec les poids, etc. Donc, vous voyez, on a quelque chose d'objectif, etc. Voilà, je crois que le danger n'est pas dans Pisa, c'est avec ils sont des personnes, la plupart des experts Pisa sont quand même des gens réfléchis et ils sont effectivement très compétents dans leur domaine. Le danger, il est ce qui se passe après. Voilà, enfin, on reviendra, je pense, sur ce débat et ça sera sans doute le débat dans vos journées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire des résultats.
Dernière question.
Oui, Bruno Garnier, donc j'interviendrai cet après-midi. Je voudrais simplement prendre un point de votre exposé très, très riche et que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant et très dense. Vous avez dit à un moment une chose que je vais reprendre cet après-midi, mais je voudrais, puisque vous êtes là,
Je serai là cet après-midi, hein, je serai là.
Vous êtes là aussi.
Mais oui, je reste avec vous.
D'accord, tant mieux. Donc vous avez montré que il y avait eu confusion entre la fonction diagnostic des évaluations nationales et leur utilisation à des fins sommatives, bilan, etc. Là, je crois que c'est extrêmement important et ça va dans le sens de l'enquête que nous avons conduite sur le terrain et dont je parlerai. Mais moi, là, je voudrais vous interroger, enfin vous faire partager une réflexion. Est-ce que le risque inverse n'existe pas, c'est-à-dire qu'on utilise les évaluations, notamment celles qui sont prescrites dans les textes qui définissent le socle commun de compétences et qui sont destinées aux élèves, à l'amélioration des compétences des élèves, et qu'on ne risque pas, là encore, de les utiliser à des fins d'amélioration des résultats du système éducatif, de comparaison internationale, etc. Qu'il ne risque pas d'y avoir une confusion entre les objectifs de PISA et leurs utilisations par les politiques qui nous gouvernent, et puis, une nouvelle fois, les évaluations des élèves qui devraient rester des évaluations des élèves pour l'usage des enseignants dans les classes. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera mieux avec les nouveaux dispositifs, la socle commun, à éviter cet écueil qui effectivement a été responsable en particulier de l'échec relatif, enfin, des évaluations nationales?
Alors c'est une excellente question parce que effectivement, j'allais dire, je me l'étais pas posé dans ce sens-là et c'est très intéressant de la poser dans ce sens-là. C'est sûr qu'on fait sans doute jouer aux évaluations bilan un rôle peut-être. Enfin là, ça sera à vous d'en discuter. Hein, je suis pas spécialiste du domaine. Ben là, je montrerai quand même sur le PDF. Donc tout ça est présenté aujourd'hui et j'allais dire c'est un petit peu quand même l'intervention qu'on avait faite sur les évaluations fin de troisième avec le Haut Conseil qui avait amené l'ADEP à recentrer ses évaluations bilan. Bon, la LOLF a encore accentué l'affaire. Donc en fait, les évaluations bilan, elles disent quelque chose sur la population dans son ensemble, mais la population dans son ensemble, ce n'est pas ce ne sont pas des élèves, d'une certaine manière, ce ne sont pas des élèves avec leur système cognitif, avec leur apprentissage. C'est-à-dire que, voyez, de bonnes évaluations diagnostiques, ça serait des évaluations qui permettent vraiment d'identifier les notions en termes de précédence. Et de dire, voilà, bon, bah, dans ma classe, j'en ai tant, ils n'ont pas acquis telle notion, donc c'est pas la peine que je passe à tel niveau, puisque, voilà. Donc ça, par contre, les évaluations de bilan ne peuvent absolument pas dire ça. Elles peuvent dire en termes généraux, dans le pourcent de notre population possède tel concept, donc on peut en tirer des conclusions peut-être en termes d'effet. Alors, le drame de PISA, puisque on reprend un même PISA, c'est que, eh bien, avec quoi on met PISA en relation? Avec les investissements dans l'éducation. Alors, vous vous rendez compte de ce qu'on dépense, et puis on n'est que là, alors que tel pays qui dépense beaucoup moins, lui, il est là. Oui, mais c'est toujours par rapport à l'objet mesure de la littératie avec PISA. C'est-à-dire que ce ne sont pas des apprentissages. Hein. C'est vrai que ça serait aussi une erreur. Là, je montrais donc ces documents de l'ADEP que vous pouvez récupérer. Voilà, donc échelle de compétence générale. Vous voyez, le langage qui est utilisé, je ne pense pas que ça soit un langage qui permette de faire un programme dans la classe. Les élèves sont capables d'exploiter l'information contenue dans des documents écrits en mettant en œuvre à un degré élevé l'ensemble des aspects constitutifs des compétences. Bon, on ne voit pas bien comment transformer ça au quotidien en pédagogie, vous voyez. Tandis que, bon, pour... le marché de l'emploi, pour un décideur politique, bon, ça peut être des choses intéressantes. Donc ça, j'allais dire, la réciproque est vraie. Ne pas faire jouer aux évaluations diagnostiques un rôle de bilan, et peut-être ne pas faire jouer aux évaluations bilan un rôle diagnostique.